morning.
Good morning.
Good morning.
Yeah, good morning.
Whoa, good morning. And
good morning, Radio Premier.
Bonjour et bienvenue sur Radio Prévert, la radio qui te change d'univers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle matinale en compagnie de Stéphane.
Bonjour Manon.
Et maintenant nous allons passer tout de suite à un petit peu d'actualité.
C'est l'heure de la météo en Saône-et-Loire sur Radio Prévert 105.9. Et on commence donc avec la météo de ce mercredi après-midi. Le ciel sera nuageux sur l'ensemble de la Saône-et-Loire. Quelques rares averses de pluie sont attendues. On notera tout de même quelques éclaircies. Les températures quant à elles seront fraîches. 4 à Autun, 6 à Chalon et à Digoin. Et enfin, on atteindra les 7 à Mâcon et Louhans, les maximales. Jeudi et vendredi, on conservera un temps gris. La pluie devrait néanmoins laisser place au soleil dès le vendredi après-midi pour bien finir la semaine. Les températures seront en hausse. Vous pourrez ranger vos pulls au placard. Météo France nous prévoit entre 13 et 15 degrés. Les deux jours suivants, c'est un week-end pluvieux et même orageux qui nous attend. Il faudra sortir les parapluies. Le mercure, quant à lui, reste printanier. On conservera des températures assez douces. C'était la météo sur Radio Prévert 105.9.
Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9.
Et on commence ce flash avec du sport et la Ligue des Champions. Il n'y a pas eu d'exploit pour les Parisiens. Hier soir, le PSG a été éliminé après une défaite 2-1 contre le Real de Madrid au Parc des Princes. Comme l'an passé, le club a quitté le tournoi dès les huitièmes de finale. La première période de jeu était plutôt pauvre en occasion. Tout s'est accéléré en seconde. Des buts de Cristiano Ronaldo et de Casemiro pour le Real ont acté la chute du PSG. Les Parisiens parviendront à égaliser, mais il était déjà trop tard. On poursuit avec le bras de fer qui se durcit entre TF1 et les opérateurs. Après Canal+, qui a coupé le signal des chaînes du groupe depuis le 1er mars, Free et Orange pourraient poursuivre en ce sens dans les heures à venir. Pour rappel, dans le cadre de la renégociation de ces accords, le groupe demande une rémunération monétaire en échange de la diffusion de ses chaînes TF1, TMC, LCI, TFX et TF1 Série Film, qui sont alors disponibles gratuitement sur la TNT. Et là, c'est le bémol, les opérateurs ne souhaitent pas payer pour des chaînes dites gratuites. La situation semble être à l'heure d'aujourd'hui cristallisée. Le CSA va recevoir les dirigeants des chaînes les 7 et 8 mars prochains afin de régler le problème. Et pour terminer, on reste dans les médias. La série phare de France 3, Plus belle la vie, essaye depuis des années de transmettre des messages. Après avoir traité des sujets comme le mariage pour tous ou encore la consommation de drogue, le feuilleton choisit de traiter la transidentité. Cette nouvelle intrigue se centrera autour du personnage de Clara, 15 ans, née dans un corps qui n'est pas le sien et qui demande à se faire appeler Antoine. Un secret difficile à porter jusqu'au jour où elle décide de briser le silence et d'avouer la vérité à ses proches. Les premiers épisodes concernant cette histoire sont à retrouver ce vendredi 9 mars. Voilà, fin de ce flash, on poursuit avec toi Manon, on ouvre une page cinéma sur Radio Prévert et tu vas revenir sur un film qui est sorti il y a quelques semaines dans les salles.
C'était toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9. Ciné News, la chronique du 7e art sur Radio Prévert 105.9. Aujourd'hui dans la chronique cinéma, nous allons parler de crimes et d'enquêtes. Ce film duquel nous allons parler est sorti récemment dans les salles de cinéma. Peut-être avez-vous deviné de quel long métrage je parle ? Ici je vous dis que le héros est un détective possédant une belle moustache. Toujours pas ? Eh bien, je parle bien sûr du crime de l'Orient Express. Il est temps de monter à bord de la locomotive pour aller résoudre une affaire de meurtre. Ouais ! Pour commencer, le film est sorti le 13 décembre 2017, il y a donc très peu de temps. Il a été réalisé par Kenneth Branagh, et vous pouvez retrouver celui-ci dans le film aux côtés de Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Josh Gad, Derek Jacobi, Penelope Cruz, Willem Dafoe et Daisy Ridley. Comme vous vous en doutez, ce film possède les genres du thriller et du policier. Je vous offre maintenant un synopsis de ce film. Hercule Poirot, détective et gentleman, s'apprête à prendre l'Orient Express pour aller à Calais. Ce voyage devait s'annoncer comme des vacances, c'est-à-dire calme et reposante. Cependant, après quelques heures et quelques discussions, un des passagers meurt sous les coups d'une personne inconnue. Réticent d'abord, Hercule finit par accepter de résoudre l'affaire. Face à lui se trouvent 13 passagers, soit 13 suspects. Arrivera-t-il à trouver le meurtrier avant que celui-ci ne frappe de nouveau? Ce meurtrier ne cacherait-il pas quelque chose d'encore plus sombre? Les pièces sont en place et les dés sont jetés. C'est ainsi que l'enquête va débuter. Et maintenant, place à la bande-annonce, histoire de toujours plus vous allécher.
C'est quand même quelque chose, cet enchevêtrement d'inconnus, enfermés ensemble pendant des jours, qui n'ont rien en commun sauf le besoin d'aller d'un endroit à un autre, et qui ne se reverront jamais. Je sens quelque chose de malfaisant dans ce train. Un passager est mort.
Alors ils ont fini par l'avoir.
Vous pensez qu'il a été tué?
Non, mais il était en excellente santé et il avait des ennemis.
En effet, il a été assassiné.
Seigneur, un meurtre ici. Paix à son âme. Quelqu'un est venu fouiller dans ma cabine en plein milieu de la nuit et personne n'a voulu me croire.
S'il y a eu un meurtre.
Mais que se passe-t-il?
Alors il y a un meurtrier. Le meurtrier est parmi nous. Et chacun de vous est suspect.
Et vous, qui êtes-vous?
Je m'appelle Hercule Poirot, et je suis sans doute le plus grand détective du monde.
J'imagine que cette petite bande-annonce vous a bien alléché. Ensuite, passons à quelques anecdotes à propos du film et du roman duquel il est tiré. Première anecdote. Savez-vous qui écrit les romans d'Hercule Poirot? Il s'agit d'Agatha Christie, et on peut dire que son talent d'écrivain est impressionnant. Durant ses 50 ans de carrière, Agatha Christie a signé 66 romans policiers, 150 nouvelles et plus de 20 pièces de théâtre, qui se sont vendues à 2 milliards d'exemplaires. Vous rendez-vous compte? Seule la Bible et William Shakespeare ont fait mieux. Ses romans ont été édités dans plus de 100 langues, ce qui fait d'elle l'auteur la plus traduite de tous les temps. Alors qu'elle préparait son diplôme en pharmacie, la confection des remèdes suscite chez elle un intérêt pour l'utilisation des poisons, lesquels jouent un rôle central dans son premier roman, La mystérieuse affaire de Styles. Elle a eu l'occasion, à de nombreuses reprises, de se rendre au Moyen-Orient à bord de l'Orient Express, car effectivement, celui-ci a bien existé. Ses voyages lui inspirèrent plusieurs romans, tels que Le crime de l'Orient Express, évidemment, Mort sur le Nil, Meurtre en Mésopotamie, Rendez-vous avec la mort ou encore Rendez-vous à Bagdad. En 1971, Agatha Christie a été élevée au rang de dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, l'une des plus hautes distinctions britanniques. Passons à la deuxième anecdote qui concerne notre petit Hercule. Le détective belge est certainement le personnage d'Agatha Christie le plus connu. Il apparaît dans 33 romans et plus de 50 nouvelles. Pour se fondre dans son rôle, Kenneth Branagh a lu en amont du tournage l'intégralité des aventures d'Hercule Poirot, en commençant par la mystérieuse affaire de Styles. Les costumes ont été réalisés sur mesure, tout comme les chaussures de Branagh qu'il a portées pendant 3 mois afin de les faire à son pied. Ce sont l'épaisseur et la forme du nœud de cravate qui ont demandé le plus de temps. Il a fallu le reproduire à la perfection chaque fois que Branagh enfilait le costume. Pas moins de 3 mois d'essais ont été nécessaires avec différents tissus et beaucoup d'amidon. Quant à l'accent, l'acteur-réalisateur a écouté les enregistrements de 27 accents belges différents, réalisés par des hommes de l'âge de Poirot s'exprimant en anglais. Il a travaillé avec un répétiteur linguistique 3 fois par semaine pour acquérir l'accent du détective. Je vous conseille donc de voir le film en anglais. Là, vous pourrez entendre l'accent tel qu'il est vraiment. Et pour finir, attachons-nous à un élément important dans notre héros, la moustache. Kenneth Branagh a apporté un soin tout particulier à la moustache qu'il allait arborer durant le film. Il a rassemblé toutes les descriptions faites par Agatha Christie en utilisant les ressources du fonds littéraire de l'auteur. On suivi 9 mois de recherche et de développement avec Carol Hemming, créatrice des maquillages et des coiffures, pour créer ce que Christie elle-même avait dépeint comme la plus belle, la plus magnifique moustache de toute l'Angleterre. Le cinéaste a été jusqu'à étudier l'œuvre des plus célèbres artistes belges, comme le peintre surréaliste Magritte et Hergé, le créateur de Tintin. Branagh déclare « C'était presque comme un masque, le super pouvoir de Poirot. Cette moustache tient les gens en distance. Il fallait qu'elle soit structurée, très fournie, d'apparence plaisante et qu'elle devait faire forte impression. » Donc, comme quoi, tous les détails sont importants. Passons maintenant à un court extrait du film.
Cela vous dérange pas que je m'assoie avec vous? Vous êtes le détective le plus célèbre du monde, Hercule Poirot. Le vengeur des innocents, comme la presse vous appelle.
Et vous êtes innocent?
Vous êtes marrant.
Cet extrait nous montrait en scène Cassidy. Cassidy, si vous regardez le film, ce nom vous surprendra et vous étonnera. La chronique touche bientôt à sa fin, hélas. Il est maintenant temps de passer à mon avis personnel sur le film. J'avais personnellement hâte de voir ce film. La bande-annonce était assez engageante et j'adore les histoires de thriller. C'est donc avec joie et très bonne compagnie que j'ai été voir ce long métrage. Tout d'abord, regardons ce film de manière large. La première chose que l'on remarque est un casting au niveau des personnages assez spectaculaire. Quasiment tous les acteurs présents sont hyper connus et célèbres de par leur talent. Cela semble très engageant en premier abord, même si pour certains, ce casting va produire l'effet inverse, voire créer une lassitude de revoir les mêmes têtes. Ensuite, on remarque des décors variés et riches, avec une luminosité qui est belle et des couleurs qui sont fraîches et douces. De ce côté-là, je ne pense pas pouvoir critiquer, sachant que dans le souci du détail, ils sont allés jusqu'à créer 2 trains pour avoir le meilleur rendu possible. Concernant les effets spéciaux, on a affaire à quelque chose de bien réalisé, apportant son lot de beauté au film. Au niveau de la caméra, on a affaire à de belles prises de vue, mobiles ou mouvantes. Cependant, il y a sans doute un peu trop de gros plans de Hercule Poirot. Passons aux personnages. Comme dit plus tôt, on retrouve pour les personnages un casting important. Et c'est parce que ce casting est important que l'on peut trouver bizarre de voir certains acteurs importants en arrière. Pour ma part, je trouve que certains personnages ont cruellement manqué de développement, comme le seul couple marié du film par exemple. Ne spoilons pas trop. Après, je trouve assez original et sympathique d'avoir pu découvrir les personnages sous un certain trait de leur personnalité, comme Hercule et son côté maniéré, ou la dame veuve frivole, ou encore le couple dont j'ai précédemment parlé avec le mari protecteur compulsif et sa femme fragile. Cela donne une certaine approche des personnages assez agréable à mon avis. Si on parle plus précisément du personnage de Hercule Poirot, il apparaît tout le long du film après tout. Je trouve qu'ils ont sans doute un peu abusé sur son côté maniéré et laissé d'en faire quelque chose de comique tout le long du film. Il est d'ailleurs amusant de voir dans cette adaptation un Hercule Poirot sportif, pour ceux qui connaîtraient les anciennes aventures d'Hercule Poirot, la série. Je m'explique, pour ceux qui ne le savent pas, Hercule Poirot n'est pas un détective du genre à courir dans tous les sens, alors le voir dans des scènes d'action est assez étonnant. Pour ma part, je trouve que cela rajoute un cachet au personnage et le rend un peu plus humain. Et si on parlait du scénario ? Rappelons déjà qu'il n'est pas facile de faire une adaptation, et encore moins quand le livre que vous adaptez a déjà un nombre important d'adaptations à son actif. Le challenge n'était donc pas simple. Cependant, on peut dire que celui-ci est bien ficelé. Comme dit plus haut, l'approche des personnages et leur caractère est vraiment pas mal, et la manière dont est apportée la clé de l'enquête l'est tout autant. Petit à petit, les épreuves s'enchaînent à l'écran en même temps que les répliques des personnages. On remarque d'ailleurs le côté moderne apporté au film avec un Hercule aux aguets. Il est légèrement dommage que le film soit un tantinet mou à certains moments, à mon sens, comme la scène avec Cassidy qui me semble légèrement longue, ou encore le fait que certains personnages restent totalement dans l'ombre et ne possèdent comme une entité qu'un nom et un métier. Après, si j'en dis trop, je risque de raconter le film. Globalement, il s'agit donc d'un bon film. Cependant, il est fort probable qu'il ne plaise pas à tout le monde. Maintenant que j'ai terminé cette chronique cinéma, nous allons passer un petit moment de musique avec Roulette de Katy Perry, Superstar de Therapy Taxi et Take My Hand de Simple Plan. C'était Ciné News sur Radio Prévert 105.9.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
T'es rabat-joie, t'es comme tout le monde, t'es pas le roi, tu sers à rien. à l'orchestre. Je veux juste me poser au comptoir, me faire draguer, montrer ma gloire. Tu veux réduire tous nos espoirs, mais on s'en fout, alors bonsoir. Si tu me laisses pas rentrer, je me barre, mais je deviendrai ton pire cauchemar. Pourquoi tu veux tout foutre en l'air, mais tu sais pas à qui t'as affaire. Moi je suis star, star, superstar. Laisse-moi rentrer juste pour un soir, soir. Moi je suis star, star, superstar. Laisse-moi rentrer juste pour un soir, soir. Regarde bien, moi je suis une star, star, superstar. Laisse-moi rentrer juste pour un soir, soir. Moi je suis, moi je suis. Laisse-moi rentrer juste pour un soir, un soir. Regarde bien, moi je suis une star, un star. Laisse-moi rentrer juste pour un soir, un soir.
Tonight, we can find some place to go. 'Cause our hearts are locked forever, and I know we'll never die.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
De retour sur Radio Prévert 105.9, on continue en musique et Stéphane, ce matin, tu vas nous parler d'un groupe qui a rempli les salles de concert lors de sa dernière tournée dans l'Hexagone et pas seulement.
Et oui Manon, dans cette matinale sur l'antenne de Radio Prévert, on va revenir sur l'ascension fulgurante des Tarbais les plus connus de France. Ils sont 9 et ont fait leur place sur la scène musicale française. C'est bien entendu, vous les aurez sans doute reconnus, il s'agit de Boulevard Désert. Music Time, votre magazine sur les dernières nouvelles et sur l'histoire de la musique. Alors si on parle ce matin de Boulevard Désert, c'est que depuis quelques semaines, les membres travaillent activement en studio à la réalisation de leur nouvel opus. Le groupe est donc actuellement en préparation de son 4e album qui devrait sortir à l'automne 2018, comme ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. L'occasion pour nous de revenir sur l'ascension fulgurante de ces jeunes artistes qui ont réuni des milliers de personnes lors de leur dernier concert. Bruxelles, c'est le dernier opus sorti dans les bacs le 1er juin 2015 du groupe Boulevard Désert. L'un des morceaux qui a connu le plus gros succès, c'est bien sûr le titre « Emmène-moi ». Dévoilé quelques mois avant la sortie dans les bacs du disque, on en écoute tout de suite un extrait sur l'antenne de Radio Prévert.
J'ai comme un grain de sable perdu dans l'océan. J'ai perdu mon cartable, j'ai perdu mes parents. Je suis comme l'eau des courants, fatigue est ignorée. Si je coule dans le vent, si je fais que passer. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent.
Ce premier titre est alors rapidement diffusé sur les ondes des plus grandes radios françaises. Leur clip dépassera quant à lui les 10 millions de vues sur YouTube. Emmène-moi se hisse ainsi en haut des charts français. Et pour la petite anecdote, ce morceau n'aurait jamais dû voir le jour. C'est ce que nous a expliqué Florent Dasque, l'un des chanteurs du groupe.
Cette chanson, en fait, n'a jamais, elle a failli, n'a jamais voir le jour, je dirais. Je me souviens, on était en train de composer les dernières chansons de la bande Bruxelles. Dans mon studio, tu sais, on réécoutait les chansons les unes après les autres en se disant est-ce que celle-là vaut le coup ou est-ce que celle-là on va la mettre dans l'album, est-ce que là on va la sortir. Et un soir en studio, on jouait un truc en boucle à la guitare qu'on aimait bien, qu'on n'avait pas encore enregistré. Alors, on a fait une prise de son, on a mis deux trombones par-dessus, quelques arrangements, et en fait, sans le savoir, on était en train de composer la dernière chanson de cet album.
Autre titre incontournable de ce nouvel opus, vous le connaissez évidemment, c'est le morceau éponyme. Je vous parle bien entendu de Bruxelles.
Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pu ne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Le single Bruxelles connaît quant à lui le même succès que Emmène-moi. Le clip sera visualisé par près de 15 millions de personnes sur la plateforme YouTube. Derrière des airs joyeux et sympathiques, la musique n'est pas tout aussi rose. Et pour cause, elle révèle un véritable drame. Ce n'est pas une déclaration à la ville de Bruxelles que Boulevard Désert met en avant ici. C'est en réalité une histoire d'amour où la fille déménage en Belgique alors que son compagnon prend la lourde décision de ne pas la suivre. Et malheureusement, l'histoire se termine. Ainsi, les relations amoureuses, ce n'est pas tout parfait, loin de là, il y a les bons moments et la séparation où tous les projets de couple disparaissent pour toujours.
Est-ce que c'est toujours les mêmes faits d'hiver? Est-ce que c'est toujours les mêmes JT? Est-ce que c'est toujours les mêmes affaires? Est-ce que c'est toujours comme c'était? Scandale, y a
perdre des mandales. Yadé yadé, y'a mon jardin, et y'a des fois j'y suis trop bien.
L'album est comme les précédents, toujours aussi varié, avec notamment des chansons aux airs de flamenco, comme avec le titre Si je m'endors mon amour ou Mentira, que vous venez d'entendre. On retrouve aussi d'autres morceaux aux consonances hispaniques. Avec cet album, le groupe laisse place ainsi à une grande diversité de musique qui réunit alors un public encore plus large.
J'ai l'impression que pour le môme que j'étais, tout était tracé jusqu'à devenir un homme. Alors je me suis laissé aller.
Le changement se déroule d'un coup d'un seul comme un coup de boule. C'est lorsque plus rien ne vous choque qu'on accepte de baisser son froc.
Alors tout devient secondaire, les enfants, la mer et le froid. Et l'important c'est la carrière, vous comprendrez mon désarroi. Alors demain de bon matin, je laisserai tout derrière moi. Et ce sera moi l'orphelin de mes projets et de nos choix.
Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes.
Avec Bruxelles, c'est aussi pour Boulevard Désert les premières collaborations avec de grands noms de la scène musicale. Pour ce disque, on retrouve Vianney, Léa Ligi, pour ne citer qu'eux, et notamment Zaz avec le titre de Bon Matin. Et derrière ce titre, il y a une très belle histoire qui se cache. On écoute Sylvain Dutu, le visage emblématique de la bande, qui nous explique les détails de ce morceau.
On faisait un petit concert dans une gare à Brest, enfin dans la gare de Brest, il n'y en a pas des mille. Et puis, sur le dernier morceau, il y avait un micro qui traînait. Et il y a une femme qui montait sur scène et qui a pris le micro et qui a chanté avec nous. C'est sympa. Et en fait, on n'a pas appelé la sécurité à ce moment-là parce qu'on a reconnu que c'était Zaz, cette femme. Que tu connais sûrement, t'as déjà entendu parler. Alors nous, on en avait entendu parler quelques fois, mais on ne l'avait jamais rencontrée. Et puis, à la fin du concert, on a échangé un petit peu, évidemment. On lui a demandé pourquoi avoir fait ça, tout ça. Et puis, de fil en aiguille, on a gardé contact. Quelques mois après, on l'a même invité sur scène officiellement lors d'un festival en Vendée. Et quelques mois après encore, on l'a même invité officiellement à partager ce morceau.
Enfin, dernier titre incontournable de l'album, c'est le morceau Ce gamin-là. Les membres du groupe retournent alors des décennies en arrière et réalisent un voyage dans le temps. De retour sur les bancs de l'école, ils font alors face à leur vie, enfant, dans la cour de récré. Le groupe Tarbé a rangé ses guitares pour les blues d'écoliers, une chanson riche en souvenirs.
Voilà, voilà, ce gamin-là, c'est moi. Voilà, voilà, ce gamin-là s'en va. Voilà, voilà, ce gamin-là, c'est moi. Voilà, voilà, ce gamin-là s'en va.
Je vois un enfant qui court, les yeux des filles et le docteur. Et je voudrais le mettre en garde, lui dire mes doutes et mes peurs de grand, mes peurs d'adulte. Lui dire fais gaffe car finalement ta tête et ton cœur tout petit feront de moi ce que je suis. Et y'a la fille qui le rend fou, et c'est pas rien, je le vois bien. L'enfant apprend l'amour et tout devient beaucoup plus flou. Et ce gosse là c'est moi, je le vois comme un inconnu. Je ne sais pas, je ne sais plus, et dit petit, te rappelles-tu?
Quelques mois après sa sortie, l'album Bruxelles sera certifié disque d'or puis disque de platine. Il prendra ainsi place dans le top 10 des meilleures ventes en France. Fort de ce succès grandissant, le collectif part à la rencontre de son public. La tournée sera marquée par les premiers zéniths de la jeune formation. La bande traverse le monde en se rendant en France, en Belgique, en Espagne ou encore en Polynésie. Rarement un groupe sera aussi resté longtemps sur les ondes. Emmène-moi à Bruxelles, demain de bon matin, ce gamin-là, c'est autant de titres qui auront fait vibrer le public. L'aventure Boulevard Désert commence donc en 2004. Qui n'a jamais rêvé de monter un groupe de musique avec ses camarades? Eh bien eux, ils l'ont fait. C'est dans la cour de récré du lycée Marie Curie de Tarbes qu'une bande d'amis se sont réunis pour former ce qui va devenir l'un des groupes incontournables de ces dernières années. Le collectif naît grâce à l'initiative de Sylvain Dutu, actuel chanteur, de Florent et Jean-Noël Dasque, respectivement chanteur et guitariste, et accompagné de Laurent Garnier au poste de bassiste. BDA pour les intimes connaît alors ses premières prémices. Avec seulement 3 albums dans les bacs, ils sont parvenus en quelques années à se faire un nom dans le paysage musical francophone. Aujourd'hui, le groupe est composé de Sylvain Dutu, Florent Dasque, Jean-Noël Dasque. Tous trois sont les auteurs, compositeurs et producteurs de tous les albums du groupe. Ils ne sont pas seuls et sont accompagnés par Jérémy Planté, Laurent Garnier, Jean-Baptiste Lab, Pierre-Emmanuel Ourous, Mélissa Dea et Ernst Carré. On les retrouve à la basse, on trombone à la batterie, au saxophone, mais aussi derrière le piano. Bien avant de connaître le succès avec leur troisième album, Boulevard Désert a écumé les scènes locales lors de premières parties remarquées. Un passage à l'Olympia en janvier 2010 leur vaut d'être présenté comme grand espoir de la scène française. L'année suivante, le groupe sort son tout premier album intitulé Paris-Buenos Aires. Il rencontre rapidement le succès et obtient un disque d'or qui témoigne de la forte adhésion du public à un groupe qui s'est forgé une solide réputation grâce à la scène. Deux morceaux feront mouche auprès du public. D'abord, Cielo Sego, qui évoque directement la mort et surtout la vie après celle-ci. Le titre aborde des questions de société à travers la religion. Malgré tout, la compagnie traite ces sujets qui restent assez tabous de manière festive et joyeuse.
C'est pas quand je serai sous terre que mes yeux et moi iront. Je choisis les vers à vos prières, une honnête décomposition. Le jour de ma mise en bière, ne touchez pas à mon âme. Elle trinquera encore sur terre, à la vie, à la mort, au vin, aux femmes. Ne lui parlez pas de vos cieux, ni de la paix de vos églises. Les péchés qui vous scandalisent auront été ce qu'il y a de mieux. El cielo no puede ser nada, el pueblo puede soñar y cantar. El cielo no puede ser nada, el pueblo puede soñar y gritar.
Et ensuite, le morceau San Clemente, assez nostalgique, qui pose des questions sur des points comme l'amour, l'amitié et la folie, ou encore l'absurdité de certaines situations.
Et je voulais vous parler des femmes, et de Godard, de leur parfum, de 68, que l'on condamne, du mois d'octobre 61. Et je voulais vous parler des femmes, et de Godard, de leur parfum, de 68, que l'on condamne, du mois d'octobre 61. Mais on ne fait pas les Amériques en écrivant ce genre de choses. Fallait choisir la chose publique, y'a peu de public à la prose. Et entre nous, mon choix est fait, et entre nous, mon choix est fait. Et jamais je ne choisirai entre la bannière et la rose.
À travers leur titre, les jeunes tarbés proposent donc au public une réflexion sur la vie et la société, des questionnements sur l'amour, l'espoir ou encore la mort, qui sont autant de thèmes abordés. Sans attendre, BDA est approché en 2012 par le groupe Trio. Les tarbés sont alors choisis pour assurer les premières parties de leur concert. Nouvelle sortie, leur deuxième album, Les Apparences Trompeuses, est disponible en 2013 et il leur permettra d'être nominé aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation Scène. Cette distinction vient récompenser l'énergie et la fraîcheur qui se dégagent de leurs prestations sur scène. De nombreux titres marquent alors ce nouveau disque et entre autres le morceau Ici, enregistré en duo avec le groupe Trio.
Ici, 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 il fait bon vivre. Et si, et si, et si, on était libre. Ici, 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 il fait bon vivre. Et si, et si, et si, on était libre.
Il faisait bon vivre, place de Milan, ville rose. Ce souvenir monastire, de la poésie à la prose. D'un abat jusqu'à Fès, le vent du sud retraverse. Une mer comme un mur, mais un mur qui est le nôtre. Ô France, je ne t'aime plus, je te quitte. Ô France, je ne t'aime plus, je te quitte.
Mais Boulevard Désert se diversifie et le groupe propose très rapidement d'autres sons avec des styles bien plus électroniques à l'image du morceau Je reste calme.
Depuis le temps que je renoue ma belle révolte sans l'assumer, ma tête explose mais mon corps souffle. Je fais comme si de rien n'était, je dois être bien aveugle et sourd pour laisser faire ses chers regards et puis j'en reste au beau discours.
Je reste calme.
Just
La chanson côtoie le rock, les influences hispaniques et des bribes de machines, avec cette même envie d'aller de l'avant, de se nourrir des rencontres de la vie et du quotidien. Concernant leur tournée et leur concert, c'est une standing ovation, et notamment il y a un peu plus d'un an, Boulevard Désert avait posé ses bagages à Chalon-sur-Saône. Les musiciens avaient alors assuré un show énergique durant plus de 2 heures devant un public conquis. Et c'est un sentiment général qui s'en dégage, donc partout où la troupe passe. D'autant plus que les membres conservent une très grande proximité avec leurs spectateurs. C'est presque une ambiance familiale que les Tarbés diffusent lors de leur show. Joie, salve d'applaudissements, danse, chant en chœur rythment leurs prestations. Les membres de BDA sont aussi des comédiens dans l'âme. Vous n'avez sans doute pas pu rater sur vos écrans le clip de Bruxelles. Et bien encore plus déroutant, le jeu de scène et la danse des musiciens se calent identiquement au vidéoclip. Et ces musiciens savent manier à la perfection les cuivres qui ajoutent une certaine touche poétique et mélodique. Boulevard Désert le montre encore, c'est un groupe vraiment proche de son public et très sympathique. Le tutoiement est de rigueur et en effet, après leur prestation, les membres du groupe viennent à la rencontre de leurs fans afin de partager un moment d'échange et de partage. Voilà, on arrive au terme de cette chronique musique, alors rendez-vous dans quelques mois pour le 4e album des Tarbés de Boulevard Désert. Et on ouvre désormais une page histoire avec toi Manon dans la suite de cette matinale sur l'antenne de Radio Prévert. C'était Music Time sur Radio Prévert 105.9.
Nom de Zeus, votre rubrique Histoire, mythes et légendes. Dans la chronique Histoire d'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre de côté pour un temps nos amis nordiques pour mettre en valeur quelqu'un d'autre. Cette personne est la tsarine Catherine II de Russie. 1729-1796, si vous voulez savoir sa date de naissance et sa date de mort. Cette femme, venue de loin, ne devant servir à la base que d'objets procréateurs, a littéralement pris en main les pouvoirs et monté sur le trône de la Russie. Son histoire mérite d'être racontée, ne pensez-vous pas? Pour commencer, Catherine a une mère d'ascendance noble. C'est une déception pour sa mère, car elle considère que sa fille n'est pas assez jolie et que ce n'est surtout pas un garçon. À l'époque, il fallait avoir un garçon après tout. Elle est arrivée en Russie en 1744. Elle s'appelait encore à l'époque Sophie Auguste Frédéric von Arnulf Zerbst. Et elle devait être présentée à la cour royale de Russie. À l'époque, l'Empire russe cherchait une épouse pour le futur tsar de Russie. Et c'est Sophie qui fut choisie. Un honneur. Elle n'était alors qu'une petite princesse, âgée de 14 ans. Pour rejoindre la cour à Moscou, depuis le petit état allemand dont elle vient, elle a dû parcourir 1500 km à cheval, accompagnée de sa mère d'une escorte, soit 7 semaines. Est-ce que vous vous imaginez parcourir autant de kilomètres dans une calèche avec de la neige? Moi pas trop, mais à l'époque, elle n'avait pas le choix. Elle est arrivée au palais, au bout d'un certain temps, pour rencontrer la tsarine Elisabeth. Sophie a tout de suite été confrontée à la réalité de la royauté. Où qu'elle sera dans le château, il y aura toujours des yeux pour les pieds et des oreilles pour l'entendre. Aucune personne ne sera réellement de confiance. C'est dans cette atmosphère qu'elle rencontre Pierre III, neveu de la tsarine et son propre cousin éloigné, puis futur mari. Car oui, à l'époque, ils se mariaient tous entre cousins, car dans toutes les royautés d'Europe, ils étaient tous cousins. Et oui. Le 21 août 1745, c'est le jour de son mariage à Saint-Pétersbourg. Sophie abandonne donc le culte protestant pour la religion orthodoxe. Elle se conforme donc à toutes les instructions qu'on lui donne. Le jour de son mariage, elle avait d'ailleurs déjà changé de religion, et à même titre de prénom, celui-ci passant de Sophie à Catherine. C'est d'ailleurs la tsarine Elisabeth qui l'a choisi. C'est ainsi qu'elle se retrouve seule au sein de la cour russe, car évidemment sa mère fut assez renvoyée assez sèchement quand même. Catherine, en tant qu'épouse de Pierre, devait se faire aimer du peuple. Elle fut d'ailleurs surprise de la misère dans laquelle celui-ci était. Après un an de mariage, les demandes étaient encore courtoises. Impatiente après 4 ans, et après 8 ans, il était sûr qu'un problème se posait. Il n'y avait toujours pas de descendant. Or, on l'avait envoyée pour qu'elle en donne. Donc, quel était le problème? Pour Catherine, les jours étaient longs, en plus de cela. Elle avait comme mission d'être belle, de bavarder, de ressort du monde. Mais bon, pour celle-ci, le plus intéressant était de s'évader dans ses lectures. Au début des romans, ensuite des ouvrages historiques. Pour elle, s'occuper l'esprit était davantage gratifiant que de parler de potins. D'ailleurs, les auteurs qu'elle lisait, entre autres, c'était Plutarque, Machiavel, Montesquieu, Diderot, Voltaire, dès la littérature française. En 1752, elle rencontre Sergueï Saltykov, membre de la jeune cour de Pierre III. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la jeune cour, en fait, c'était... Bah, la jeune cour, en fait, c'était une cour qui ne se déplaçait qu'avec Pierre et qui l'accompagnait partout, dont à la chasse. Il fut son premier amant et amour. Elle ne tarda d'ailleurs pas à tomber enceinte de lui. Plus tard, elle découvrira qu'il ne s'est approché d'elle que sur l'ordre de la tsarine, qui voulait voir naître un héritier. Car effectivement, la tsarine se disait que le problème ne venait sans doute pas de Catherine. Le problème devait venir de Pierre. Donc Pierre stérile, il y avait un problème. Et le problème, il fallait le résoudre, quitte à fomenter un complot. Le 21 septembre 1754, elle accouche d'un garçon appelé Paul. Catherine a à peine le temps de le voir qu'il est emmené dans les appartements de la tsarine, où il devait être élevé. Elle n'aurait donc aucun impact sur son avenir. Et pour elle, ce ne serait qu'un étranger. Car effectivement, elle n'a vu son enfant qu'une fois. Après, elle ne le reverra que très rarement. Et elle lui parlera à peine. Donc l'instinct maternel, oui, mais l'amour maternel, pas tellement. Pour Pierre III, Paul était son fils. Ce qui pouvait grandement ne pas être le cas, comme on s'en doute vu ce que je vous ai dit précédemment. L'important était la succession après tout. Elle rencontra ensuite notre chère Catherine, Grégory Orloff, un amant remarquable selon ses mémoires. C'était un homme qui n'avait peur de rien, dont d'avoir une relation avec la femme du souverain quand même. Hein. Certains auraient eu la tête tranchée pour moins que ça. C'est après cela qu'elle décida de donner ses faveurs à plusieurs hommes et présenta 21 hommes favoris à la cour. Elle ne souhaitait pas le cacher. D'ailleurs, elle le disait elle-même, si les rois avaient le droit d'avoir plein de favorites, pourquoi elle n'en aurait pas le droit, sachant qu'elle n'en présentait que 21. Oui, je mets entre parenthèses, 21. Oui, car à l'époque, ils en avaient sans doute beaucoup plus, dont des cachets. Le 5 janvier 1762, l'impératrice Élisabeth de Russie meurt. Les complots pour le pouvoir se mettent alors en route. Catherine avait beaucoup souffert à cause de la tsarine. Je vous rappelle quand même que la tsarine avait envoyé quelqu'un pour la faire tomber enceinte. Mais celle-ci lui avait aussi enseigné jusqu'où une femme pouvait aller et que trop de sentiments étaient dangereux. Pierre III se mit donc à régner. Il fit s'arrêter en premier lieu une longue guerre de 100 ans avec la Prusse. Et c'est avec détermination qu'il met en marche ses projets. Le léger souci étant que Catherine se trouvait en travers de ses projets, dont l'un était d'épouser sa maîtresse, Elisabeth Vorontsova. Admirez l'accent. Après 6 mois de règne, Pierre III ne s'était toujours pas fait couronner. Le but de Catherine fut alors de le devancer et de saisir l'opportunité. Sa vie était en jeu après tout. C'est simple. Tant que la personne n'était pas couronnée, elle avait ses chances de prendre le pouvoir. Après tout, le peuple. C'est qui l'idole? C'est celui qui porte la couronne. Pierre ne la portait alors pas. Ensuite, elle commença alors à se faire des alliés, comme Grégory Orloff et ses frères, qui étaient tous dans l'armée. Et donc, elle réussit à se faire des alliés, donc dans l'armée, et également dans les sphères de l'Église. Une nuit, le moment fut venu de prendre le trône par la force. Catherine mit donc, pour l'occasion, un uniforme de la garde. À ce moment-là, son mari Pierre s'était retiré dans une résidence. À l'aube, Catherine arriva à la garnison Ismailovski, devant les tours de Saint-Pétersbourg. Son but était de convaincre la garde de travailler à ses côtés. Et elle réussit avec un discours, ma foi, des plus intéressants. Lorsque son action de prise de pouvoir fut annoncée, les partisans de Pierre III s'enfuirent, le laissant seul face à ça. Celui-ci fut dévasté et dit à Catherine qu'il ne ferait rien contre elle. Cependant, il était clair que tant que son époux était en vie, il resterait une menace pour le trône. Quelques jours plus tard, Catherine reçut une lettre d'Alexei Orloff, donc le frère de Grégory Orloff, son amant, faut suivre, lui annonçant la mort de Pierre, soi-disant suite à une dispute. Ouais, vous aussi, vous y croyez pas trop que c'était accidentel ? Ouais, nous sommes d'accord. Le 23 septembre 1762, elle est couronnée impératrice à Moscou. Et oui, elle a pas fait comme Pierre, elle a pas attendu, hein. Direct, elle y est allée. Hein. Elle ne souhaitait pas s'assurer d'ailleurs la régence pour son fils. Certains pensaient qu'elle n'assurerait que la régence. Eh ben non. Non, celui-ci devrait attendre la mort de sa mère. Effectivement, elle n'avait pas enduré une vingtaine d'années, comme on va dire, ventre sur pattes et fomenté toute une rébellion et prise de pouvoir pour ensuite faire simplement une régence. Non, c'était son trône à elle, et elle ne le donnerait pas si facilement. Et voilà, c'est ce que je voulais raconter à propos de Catherine II de Russie. Car, comme vous pouvez le voir et l'avez entendu, c'est une femme quand même avec un parcours assez intéressant. Pour l'histoire de Catherine, j'ai regardé pour l'occasion un documentaire appelé « Ces femmes qui ont fait l'histoire ». Catherine II de Russie, de Arte, qui est très intéressant. D'ailleurs, le programme propose d'autres histoires de femmes tout aussi intéressantes et qui ont totalement marqué leur temps et ont eu des vies, ma foi, assez intéressantes, comme Jeanne d'Arc. Et maintenant, nous allons passer à une pause musicale avec « Rien ne sert de courir » de Karim Ouellet, « The Static Age » de Green Day et « On s'en va » de Scheim. C'était « Nom de Zeus » sur Radio Prévert 105.9.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
Les yeux remplis de pluie, les mains en feuilles mortes. L'estomac noué, j'ai mal à la tête encore. Laisse pas le diable cogner à ta porte.
Je t'aime. Tant pis, Mortel. Hey, it's a static cage, my lady. gris. Triste est la scène, les piles sont de sortie. Et leurs histoires sont les miennes. Voilà quand Paris me gêne. Quand je ne peux pas oublier, il y a comme un manque d'oxygène. Mais j'ai pas envie de pleurer. J'ai pas envie de pleurer. Oh! Allez, viens, 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 on s'en va. Tant pis, j'ai pas l'heure. Et je sais pas où on va. On dira qu'on n'est pas loin. Qu'on est même juste là. Je m'en fous, partons quelque part. Une guitare, une tequila. Allez, viens, viens, on s'en va. On dira qu'on n'est pas loin, qu'on est même juste là. Je m'en fous, partons quelque part. Une guitare, une tequila. Allez, viens, viens, on s'en va. Murmure des secrets aux oreilles des soi-disant muets et qui les chantent au réveil. Oh, la belle symphonie dont je ne reconnais pas l'air. Funambule, je cherche la sortie pour retrouver l'air. Et j'ai pas envie de pleurer. J'ai pas envie de pleurer. Allez, allez, viens, 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 on s'en va. Tant pis, j'ai pas l'heure. Et je sais pas où on va. On dira qu'on n'est pas loin. Qu'on est même juste là. Je m'en fous, partons quelque part. Une guitare, une tequila. Allez, viens, viens, on s'en va. J'ai pas envie de pleurer, pas devant toi. J'ai pas envie de pleurer, pas devant toi.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
On se retrouve sur Radio Prévert, et cette fois-ci, nous allons parler d'un nouveau concept à Chalon-sur-Saône, le coworking. Je vous laisse donc au petit son de Stéphane.
Le saviez-vous ? C'est maintenant sur votre fréquence.
On se retrouve pour parler d'un nouveau mode de travail ce matin sur Radio Prévert et d'un nouveau concept à Chalon. C'est le concept du coworking. Et aujourd'hui, on reçoit Pierre Canteloup, gérant de Chalon Coworking, un espace créé en septembre dernier, et Lara Young, résidente au sein de la structure. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et on va donc rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que le coworking, Pierre, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce nouveau concept ?
Alors, ce concept qui en fait n'est pas nouveau. Alors, il est nouveau sur Chalon, mais il n'est pas vraiment nouveau en France. Ça va, on va dire, au moins 5 ans que ça existe. C'est assez simple. C'est juste une mutualisation de ressources. Au sens où c'est un endroit où il y a plein de bureaux, où il y a la fibre, ADSL, une imprimante, une machine à café, très important, et qui permet donc à différentes personnes, des travailleurs ou des particuliers, de venir avec leur ordinateur et de travailler pour 1 heure, 2 heures, une demi-journée ou beaucoup plus longtemps, comme le fait Lara, puisqu'elle est là tous les jours et qu'elle a un bureau à elle. Donc on a 2 types de personnes. On a donc les nomades qui viennent, voilà, vous venez juste 1 heure parce que vous avez besoin de travailler pendant 1 heure, ou les résidents comme Lara qui a son propre bureau et qui est là tout le temps.
Et justement, pour une personne qui souhaiterait venir s'installer dans votre espace de coworking, quels sont les objectifs d'une telle structure ?
Alors, si je prends mon cas, moi j'habite Morges, je suis travailleur indépendant, et pendant longtemps, donc j'ai travaillé depuis chez moi, donc avec mes enfants en bas âge, donc un bazar pas possible à chaque fois que je travaille ou que je peux répondre au téléphone. L'avantage de l'espace de coworking, c'est que finalement je suis en plein Chalon, que j'ai 170 mètres carrés pour moi, même si je le partage avec d'autres personnes, j'ai une salle de réunion où je peux recevoir mes clients sans que ce soit avec mes enfants aux alentours, on va dire. Donc il y a un côté de professionnalisation qu'on n'a pas forcément autre part. L'autre avantage, c'est que je ne loue pas par moi-même tout un studio où j'ai pas eu à m'embêter à l'aménagement et je peux partir du jour au lendemain. Donc je n'ai aucune obligation. Enfin, sauf Lara qui n'a pas le droit de partir du jour au lendemain, mais je n'ai aucune obligation en fait quant au lieu de travail. Tout est là pour que j'arrive, je me pose, je travaille, je reparte, et c'est tout. J'ai pas besoin de m'occuper d'autre chose que de travailler à cet endroit-là. L'avantage donc financier, mine de rien, parce que vous êtes avec d'autres travailleurs, vous avez des échanges, il y a donc ce réseautage professionnel qui est très important, qui se fait un peu naturellement, et effectivement la possibilité d'échanger sur plein de choses, ce qu'on ne fait pas quand on est indépendant et qu'on bosse tout seul chez soi, et aussi de résoudre certains problèmes ou de participer à la résolution de problèmes pour d'autres coworkers. Mais bon, encore une fois, c'est pas une obligation. C'est vrai que nous, on est dans la même salle, on travaille toute la journée ensemble. Et voilà, si Lara a des soucis en informatique, elle est capable de me demander. Bon, ça n'arrive pas, mais en tout cas, voilà, on a chacun en fait des compétences qu'on peut mettre à disposition des autres, mais c'est absolument pas, c'est pas forcément la base du coworking. C'est plutôt la mutualisation de l'espace qui fait qu'au final, effectivement, les gens vont avoir des affinités et effectivement, peut-être, à un moment, travailler ensemble ou en tout cas faire des échanges, même si c'est chacun dans son coin, on est capable de faire des échanges. Lara, est-ce qu'on met un S à tel mot ou Pierre
Qu'est-ce que ça veut dire HTM?
Voilà, ce genre de truc. Mais ça peut se limiter à ça, en fait. Après, c'est des échanges plus voilà, sur le loisir, qu'est-ce qu'on a fait ce week-end. Ou alors on s'arrête tous, on va prendre un café, et voilà. Mais au final, en fait, il y a une concentration de travail qu'on n'a pas forcément quand on est chacun chez soi.
Oui, donc si je comprends bien, Chalon Coworking, c'est une grande pièce en quelque sorte, où tout le monde est réuni pour travailler sur ses projets.
C'est un open space, donc on a chacun notre bureau, qui est dans une salle, et il y a une autre salle qui est réservée en fait aux nomades, donc aux gens qui ne sont pas là tout le temps, et qui permet donc de faire une séparation finalement un petit peu entre les vrais travailleurs des moins travailleurs. Mais c'est ça, c'est un open space, et on tient à ce que ça reste sous cette forme-là et que ce soit pas justement des bureaux cloisonnés pour garder l'esprit du coworking. Donc c'est comme ça qu'on le voit, en tout cas, pour l'instant.
Donc, il y a des échanges entre les membres, mais également un point que vous mettez donc en avant, c'est donc la convivialité entre tous ces travailleurs, en quelque sorte.
Une sociabilité qu'on n'a pas quand on travaille, a priori, chez soi. C'est une part importante de cet espace, en l'occurrence.
Et justement, qui est-ce qui peut venir au sein de Chalon Coworking? À quel public ça s'adresse, ce nouveau concept de travail?
Alors, personnellement, on a plutôt des jeunes, mais c'est pas que ça, forcément. C'est-à-dire que toute personne qui, à un instant T, n'a pas envie de rester chez soi parce que elle va avoir 2 heures de travail devant elle, ou même un étudiant, ou un retraité, enfin, j'en sais rien, il n'y a pas d'obligation. C'est pas un cybercafé, mais on n'en est pas loin. Mais ça reste un endroit destiné au travail, et il est ouvert à tout le monde, en fait. Nous, on ne fait pas de sélection. Il y a des espaces qui font des sélections, c'est-à-dire qui ne prennent que des informaticiens, qui ne vont prendre que des architectes. Et nous, on ouvre à tout le monde. Et il n'y a pas non plus de cotisation, alors qu'il y a des espaces où il y a des cotisations d'entrée. C'est-à-dire que nous, vous pouvez passer la porte de Channel Coworking, demander à travailler 1 heure et repartir au bout d'une heure, c'est tout à fait possible.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement au mois ou à l'année, par exemple, c'est bien ça ?
Non, plus sûr. C'est vraiment à l'heure.
Donc en quelque sorte, on vient quand on veut, quand on a l'envie. Et justement, à l'heure d'aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent, ou en tout cas qui viennent profiter de cet espace de coworking, Chalon Coworking ?
Joker.
On a quelques résidents, je peux répondre ? On a quelques résidents qui sont là donc tous les jours, comme moi. Et il y a aussi, une vingtaine de personnes régulières qui viennent une fois par semaine, une fois par mois, pour une demi-journée, une journée, pour animer une réunion, pour recevoir des gens, ou pour faire pour travailler tout simplement. Et puis après, on a toute une population qui est plus ponctuelle, soit de passage dans la région, soit parce qu'il y a un besoin ponctuel de, pendant 1 heure, travailler, ou imprimer un document, ou accéder à Internet pour une raison X ou Y. Donc c'est une population assez diverse, mais on commence à avoir une clientèle entre guillemets régulière, un public régulier.
Et au niveau maintenant des prestations que vous proposez au sein de Chalon Coworking, si j'ai bien compris, les personnes peuvent venir avec leur propre matériel, mais est-ce que vous proposez d'autres prestations justement sur place avec d'autres matériels ?
Alors, on n'a pas, pour l'instant, mis en place ça. C'est pas l'objectif. Même s'il y a une mutualisation de ressources, l'ordinateur, qui est l'outil de travail de base finalement du coworker, c'est un peu personnel, donc c'est un peu compliqué. On a un PC pour dépanner si une personne vraiment a un besoin urgent et spécifique, mais on n'est pas en partage de ce type-là. Il y a une imprimante, il y a des tablettes graphiques, mais ça se limite à ça en termes de matériel. Les gens viennent avec leurs outils de travail. Nous, on fournit le support et la ligne, la fibre.
Donc, pour résumer, la pièce et donc la connexion Internet pour les personnes qui souhaiteraient avoir justement Internet pour travailler.
On propose quand même une cuisine qui est équipée, qui permet de se faire des bons cafés, de se faire des bons thés, et puis de déjeuner quand on passe la journée.
Des fois, des smoothies.
Des smoothies, on apparaît partout.
On les pose, oui.
C'est ça.
Alors, j'ai pu voir qu'au sein de Chalon Coworking, vous proposiez parfois des événements. En quoi consistent justement ces animations au sein de la structure ?
Alors, les événements ont beaucoup évolué. On a fait des ateliers qui... les ateliers sont là pour rester autour du travail. Même si au début je faisais des ateliers jeux vidéo, ça n'a pas pris, puis les gens ont un petit peu mal perçu finalement ce mélange entre le jeu et le travail. Donc c'est des ateliers que j'ai arrêtés et que je reprendrai peut-être dans quelques années, mais pour l'instant je les arrête parce qu'effectivement les gens ne comprennent pas le mélange des deux. Donc ce sont que des ateliers qui sont liés à l'environnement de travail, mais aussi au bien-être dans le travail. Donc ça, c'est des ateliers que j'ai fait depuis le début, donc ça paraît étrange, mais voilà, c'est des ateliers de massage acide, de respiration, ce sont les ateliers zen, comme on les appelle. Il y en a une fois par mois. Après, c'est des ateliers de formation en fait aux usages informatiques. Donc ça, c'est moi qui les mets en place, en essayant en fait que ce soit pas des ateliers qu'on va voir sur d'autres choses aux alentours de Chalon. Donc, ils sont destinés et qui sont faits par des gens qui utilisent ou qui font en fait ces choses-là tous les jours afin justement de pouvoir répondre réellement aux gens quand ils vont leur poser des questions, d'être vraiment capable de pouvoir répondre à telle ou telle problématique. Donc pour l'instant ça se limite à ça. Donc c'est des ateliers sur l'utilisation d'un ordinateur pour arriver à automatiser un ensemble de tâches et sur la gestion du temps avec des méthodologies un peu plus modernes que ce qu'on peut habituellement entendre et avec surtout en fait des outils en ligne pour manipuler tout ça. L'objectif est qu'en fait chaque coworker, Lara y compris, puisse proposer des ateliers. Pour l'instant, il n'y a que moi qui en propose, mais c'est parce que chez mon coworking est tout jeune. Mais voilà, les ateliers bien-être, c'est des personnes qu'on a en fait découvertes à chez mon coworking, qui ont découvert également chez mon coworking, comme Méline Bien-être, Cécile Carpaneo, et qui viennent en fait régulièrement, en tout cas une fois par mois, proposer leurs prestations. C'est une forme d'échange. Elles ont un lieu sur Chalon pour pouvoir proposer une prestation, pour pouvoir faire découvrir leur métier et pour pouvoir aider les gens en fait à améliorer leur position de travail, à se détendre sur une grosse journée de travail. Et ça, mine de rien, en fait, c'est des prestations qui sont de plus en plus proposées dans les entreprises. Alors, plutôt parisienne, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer. Nous, on propose à Chalon Coworking. Voilà. Mais voilà, l'objectif est que Chalon Coworking reste une zone ou un espace où les gens puissent s'exprimer et faire partager leurs compétences. J'invite en fait les coworkers à proposer des ateliers. Je sais que on a notre troisième coworkeuse, donc Elodie Catala, qui est une graphiste, va proposer dans peu de temps en fait des ateliers sur le graphisme. Alors c'est vrai que pour l'instant on a l'impression que ce sont que des ateliers qui tournent autour de l'informatique, mais comme les coworkers sont pas forcément que des informaticiens, on n'est pas forcément limité à ça. On aimerait bien avoir une comptable par exemple, ou en tout cas une secrétaire à domicile. C'est le genre de métier de coworker qu'on pense être utile en fait, parce que ça permettrait d'étendre les compétences et le champ de compétences qu'il peut y avoir au niveau de chaque coworking.
Oui, puis on imagine bien que des points comme l'informatique, comme la comptabilité, c'est des choses qui restent quand même incontournables et importantes dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne de tous en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Je pense que le meilleur exemple, c'est le premier atelier que tu as animé sur la productivité, les outils, l'aide que peuvent nous apporter les outils informatiques pour améliorer sa productivité. On avait un public qui était très très disparate, enfin très divers plutôt. Moi j'y ai participé, on avait des personnes qui étaient plutôt dans le monde du spectacle, une personne qui était retraitée si je me trompe pas. Donc il y avait effectivement un public très très divers, et c'est vrai que ces outils peuvent servir dans la vie quotidienne, dans le cadre du travail ou même dans le cadre de la vie privée pour gagner du temps simplement.
Et puis c'est une nouvelle fois, comme vous le disiez tout à l'heure, un échange. On vient à Chalon Coworking pour travailler certes, mais on vient également mettre en avant son talent, partager ses compétences qui peuvent être finalement utiles à tous.
Exactement.
Ouais. Ouais, alors je tiens juste à faire une précision quant justement à cette problématique du partage. Comme je vous expliquais tout à l'heure, le mot coworking est un terme anglais qui ne veut pas dire partage de travail. C'est une interprétation française en fait du co-working qui nous fait penser que c'est des univers de partage de travail, ce qui n'est pas du tout le cas. On peut arriver à travailler avec une autre personne dans un espace de co-working, mais ça n'est pas la base. Voilà. Moi, en tant que concierge, par contre, je me donne comme devoir justement d'essayer de promouvoir au mieux mes coworkers. J'ai essayé d'aider moi Lara
j'ai fait la promotion
de Lara, j'essaie de faire la promotion d'Elodie, j'essaie de faire profiter finalement du peu de connaissances que je commence à avoir auprès des gens qui viennent, mais je ne leur demande pas de travailler avec moi et je ne leur demande pas de travailler ensemble.
Je rebondis là-dessus. Je pense qu'effectivement, c'est pas une obligation, mais l'espace de coworking peut permettre. On parlait de réseautage tout à l'heure.
Oui.
Peut permettre effectivement de partager ses connaissances et les problématiques qu'on peut rencontrer sur des projets, et justement de se dire ah bah tiens, toi tu sais faire ça, moi je sais pas. On pourrait proposer une collaboration, ou en tout cas nos compétences conjointes à un client qui pourrait avoir besoin d'un panel un peu plus important de compétences. Donc je pense que ça peut tout à fait être le cas, notamment dans le sens où on n'est pas tous dans l'informatique, mais on a quand même des métiers qui se ressemblent, voire en tout cas qui se chevauchent, et qui peuvent justifier qu'on collabore sur un projet ou sur deux projets.
L'avantage, c'est qu'effectivement l'espace, comme tu dis, en fait, permet à un moment, un instant T, à deux personnes d'être dans un lieu commun pour un travail en commun, ce qui va peut-être durer une semaine, un mois, et après, elles retournent chacun de leur côté. Mais ça donne effectivement, en tout cas, cette possibilité d'avoir un lieu commun pour travailler à deux, trois, sur un projet qu'on n'aurait jamais pu prendre tout seul parce que justement, il est trop gros. Après, c'est vrai que dans les ateliers et cette partie réseautage, il y a tous les derniers vendredis, en fait, on fait un petit déjeuner. Pour le coup, en fait, il n'y a pas de but particulier, c'est juste, voilà, d'être ensemble le matin et puis de manger des bons petits croissants et un bon petit café. Mais ça permet en tout cas aux gens, en tout cas, voilà, de découvrir d'autres personnes, de réseauter un peu. Et c'est vrai que ce côté sociabilisation, connaissance, et qui peut amener au partage de compétences, est important dans le coworking.
Oui, et puis des endroits, des lieux comme Chalon Coworking, c'est pas forcément très commun ici, comme vous le disiez tout à l'heure, en tout cas ici à Chalon-sur-Saône et dans le département en quelque sorte. C'est plus dans les grandes agglomérations qu'on retrouve de telles structures. Et donc plus concrètement sur le projet de coworking, de Chalon Coworking, quelle préparation ça a demandé justement pour mettre en place un tel concept, une telle structure ici à Chalon-sur-Saône?
Alors, moi je suis informaticien, je suis pas du tout gestionnaire de projet, enfin monteur de projet en l'occurrence. Et en fait, ça fait des années que j'avais envie d'en monter un. Je voulais en monter un à Moroge, en milieu rural. J'ai jamais eu le temps, j'avais trop de travail, donc j'ai laissé tomber. Et l'année dernière, pour une raison complètement différente, en fait, je me suis dit que c'était le moment de le faire, qu'il fallait que je le fasse, que si je le faisais pas, quelqu'un d'autre le ferait. Donc j'ai pas du tout réfléchi plus que ça. Je savais que le coworking était un concept qui était très en vogue, que dans les villes moyennes et grandes, ça marchait très bien. Donc pour moi, il n'y avait strictement aucun problème pour monter un espace de coworking à Chalon. Donc je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai cherché un local, j'ai trouvé un local, j'ai acheté des meubles, voilà, j'ai monté le truc comme ça, à l'envers. Donc ne le faites pas comme ça, hein, surtout. J'ai effectivement un peu tout monté à la force des bras tout seul, et je me suis beaucoup fatigué là-dessus. Donc maintenant, en fait, je travaille avec Clara et je la remercie parce que ça me soulage. Mais voilà, j'ai pas fait d'études de marché plus que ça. Je suis parti bille en tête à le monter. J'en paye un peu les pots cassés actuellement, mais en tout cas, je suis quand même content d'avoir pu le mener jusque là où il en est actuellement. Parce que effectivement, mine de rien, monter un projet, ça demande beaucoup plus de travail que ce que j'ai fait. En tout cas, de travail préalable. J'aurais dû me faire accompagner, comme je l'ai fait en fait a posteriori par la BGE ou Potentiel, mais j'aurais dû. Ça aurait été beaucoup plus sage. Ça aurait pris sûrement beaucoup plus de temps. Donc après, je vais pas dire que je regrette ce que j'ai fait, la manière dont je l'ai fait. Le timing était peut-être serré ou pas, je sais pas. Voilà, moi je l'ai fait comme ça. Bon, pour l'instant on y est encore, tout ça fonctionne, mais effectivement c'est un projet qui demandait finalement beaucoup plus de préparation, puisqu'il y avait cette problématique d'espace, la problématique finalement de comment on allait recevoir les gens, quel type de population allait venir, et tout ça, ça a été un petit peu chamboulé. Parce qu'en fait, on a découvert qu'à Chalon, le coworking, c'était inconnu. C'est-à-dire, quand on est parti d'un postulat où le coworking était quelque chose d'acquis, à un résultat, enfin, en tout cas, on a pris conscience que finalement, sur Chalon-sur-Saône, les gens ne comprenaient pas ou n'avaient pas connaissance de ce type de lieu de travail. Et donc ça a un peu tout cassé.
Donc le travail de disons de communication est d'autant plus important parce que, et c'est pour ça d'ailleurs une des raisons qui font qu'on est là aujourd'hui, les gens ne savent pas forcément que l'espace de coworking existe. Comme disait Pierre, il y a un défaut aussi de connaissance du concept qui est très en vogue dans les grandes villes parce qu'il y a un contexte qui fait que les gens sont plus à même d'aller dans un espace de ce type-là. À Chalon, on a une population d'indépendants ou en tout cas de professionnels nomades qui est un petit peu moins importante. Donc voilà, il y a un travail de communication un peu plus important à faire que si on était à Lyon ou si on était à Paris. Mais moi, en tant que résidente, en tout cas, je peux attester de l'intérêt que j'y trouve, et on en parlera un petit peu plus tard, mais ça sert vraiment d'être dans un espace comme ça, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ne pas en avoir besoin, parce que travailler chez soi, c'est vrai que c'est pratique, on a tout à portée de main, mais pour des tas de raisons, c'est pas forcément la meilleure solution. Et donc un espace de coworking, avec tous les services qu'il propose, a tout son intérêt.
Et justement, maintenant, on va parler de vous. Donc, vous êtes traductrice, rédactrice, et vous travaillez donc au sein de Chalon Coworking.
Ouais.
Voilà, en tant que résidente.
En tant que résidente, depuis 6 mois maintenant.
Ouais.
Depuis 6 mois. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé à aller justement découvrir ce mode de travail?
Alors, pour toutes les raisons qu'on a données jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que je suis freelance, donc indépendante depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai travaillé pendant 1 an et demi de chez moi et j'ai vu les limites de ce rythme-là. C'est vrai que c'est très confortable, on a tout ce qu'il faut, mais on a beaucoup de distractions aussi. Et puis c'est compliqué de ne jamais sortir de chez soi et de ne pas avoir un espace qui est dédié au travail. Ça, je l'ai trouvé à Chalon Coworking et j'ai cherché assez assidûment un espace comme ça. Et je vois la différence aujourd'hui dans ma productivité, dans la concentration que je peux avoir sur mon travail, dans le confort dans lequel je peux recevoir mes clients, organiser des conférences téléphoniques. Voilà, la concentration, elle est bien meilleure. Donc pour ça, ça m'a fait gagner en productivité et donc en chiffre d'affaires, puisque c'est quand même un petit peu ça le nerf de la guerre. Et puis il y a tous les, ce qu'on peut considérer comme des petits plus, mais qui sont en fait très importants, qui sont la possibilité d'avoir un peu plus de réseau, d'augmenter les connaissances qu'on a des différents métiers qui existent à Chalon et des personnes qui les exercent, d'avoir tout à portée de main, une imprimante, un bureau, une salle de réunion, une cuisine, sans être obligé de le financer soi-même, ce qui n'est pas négligeable. Et puis voilà, l'ambiance, l'atmosphère, ça compte aussi beaucoup.
Ouais. Donc c'est un tout, il y a le travail, l'ambiance, les relations, c'est un tout qui fait que vous êtes...
Gagnante à 100%.
Voilà. comment vous avez découvert justement ce lieu à Chalon?
Écoutez, on s'est rencontré avec Pierre dans un contexte complètement différent. Et puis c'est au moment où tu cherchais le local et du coup on en a parlé un petit peu. Et moi j'étais déjà freelance à l'époque et ça m'a tout de suite intéressé. Donc en fait on a échangé nos coordonnées, je me suis renseignée, j'ai essayé de suivre un petit peu comment ça avançait. Et puis au moment où Pierre a ouvert l'espace de coworking à la fin de l'été dernier. Je suis allée visiter et puis je me suis installée quelques semaines plus tard. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
D'accord, c'est la première fois que vous travaillez dans un tel milieu, entre guillemets ?
Alors j'ai essayé quelques espaces de coworking différents à Paris, parce que je vivais à Paris avant, mais de façon plus ponctuelle, donc en mode nomade, entre guillemets. J'y allais pour une journée, une demi-journée, pour travailler un petit peu quand j'en avais marre d'être chez moi. Et là vraiment je suis installée, j'ai mon bureau, j'ai mon écran, j'ai mes papiers, mes vieilles tasses de café, etc. Je suis très bien installée, ouais. Donc c'est la première fois que je suis vraiment résidente dans un espace comme ça.
D'accord, oui, donc c'est un bel espace de travail pour se couper aussi un petit peu, comme vous disiez tout à l'heure, de la maison, ça permet de sortir, de voir du monde.
Exactement, ouais.
On va arriver au terme de cette interview. Est-ce que vous avez chacun un mot à rajouter ou un point qu'on n'aurait pas forcément évoqué durant le programme?
Non, moi j'ajouterais, c'est simplement que on espère que le concept prendra un peu plus d'ampleur rapidement à Chalon et dans les alentours aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens dans la périphérie de Chalon qui seraient intéressés. Et puis on est prêt à accueillir et à passer un petit moment avec tous les gens qui sont intéressés, qui voudraient venir boire un café à Chalon Coworking. Un passe de la cloche.
Café au grain.
Café au grain.
Eh bien, on arrive au terme de cet entretien. Merci à vous deux d'être venus aujourd'hui dans les studios de Radio Prévert.
Merci à vous.
Et je rappelle quelques informations. On peut vous retrouver sur Internet à l'adresse suivante, chalon-coworking.fr, et plus précisément au 4 impasse de la cloche à Chalon, à deux pas de l'hôtel de ville.
C'était Le Saviez-vous sur Radio Prévert 105.9.
Quoi de neuf au CDI, la chronique littéraire sur Radio Prévert 105.9.
Aujourd'hui dans la chronique littéraire, nous parlerons d'océans et de merveilles. Connaissez-vous des romans où l'histoire se passe sous l'eau? Sans doute pas beaucoup. Plus en détail, l'histoire se passe il y a de cela un siècle. Vous ai-je perdu dans les tréfonds marins? Allez, assez de suspense. Nous allons aborder le célèbre 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Auteur extrêmement connu et père des voyages extraordinaires. La célèbre suite de romans comprenant notre œuvre du jour, évidemment, mais également Voyage au centre de la Terre, par exemple. Allez, parlons plus de l'œuvre. 20 000 lieues sous les mers est un roman dit d'aventure, paru entre 1869 et 1870. Son succès a fait qu'il a été adapté de nombreuses fois, que ce soit au cinéma, à la télévision ou encore en bande dessinée. On peut dire que cet ouvrage fascine les générations. Petit aparté, on le retrouve même en manga. Et oui, jusqu'au Japon. Mais comment a bien pu naître cette œuvre ? Pour commencer, sa conception a été l'une des plus longues parmi toutes les histoires des voyages extraordinaires. La naissance de ce roman est d'ailleurs des plus intéressantes, puisque celui-ci est né d'une suggestion de George Sand. Vous ne pouvez que connaître cette célèbre romancière. Celle-ci avait adoré les lire et ne pouvait pas attendre qu'un autre sorte. Elle voulait en avoir un autre, quelque chose à croquer sous la dent. Donc elle a envoyé une petite lettre à Jules Verne. Elle lui a dit « Allez, c'était bien, s'il te plaît, sors autre chose. » Et dans cette lettre, elle a communiqué donc toute sa joie et une suggestion très intéressante. Jules Verne était très fier d'avoir saisi l'intérêt d'un auteur qu'il estimait. George Sand, c'est pas n'importe qui quand même. C'est donc avec cette lettre qu'est née l'inspiration de Jules Verne pour écrire 20 000 lieues sous les mers. Je sens votre curiosité. Je vais donc vous lire la partie où elle fait sa suggestion d'histoire. Eh oui, j'ai récupéré une partie de la lettre. Vous êtes bouche bée, hein? Non, en fait, non. « Je vous remercie, monsieur, de vos aimables mots mis en deux saisissants ouvrages qui ont réussi à me distraire d'une bien profonde douleur et à m'en faire supporter l'inquiétude. Je n'ai qu'un chagrin en ce qui les concerne, celui de les avoir finis et d'en avoir pas encore une douzaine à lire. J'espère que vous nous conduirez bientôt dans les profondeurs de la mer et que vous ferez voyager vos personnages dans ces appareils de plongeurs que votre science et votre imagination peuvent se permettre de perfectionner. » Plutôt subtile la suggestion, n'est-ce pas? Et maintenant, il est temps de passer au synopsis de l'œuvre. Évidemment, car je le sais bien, tout le monde ne sait pas forcément de quoi parle le roman. Vous connaissez le nom, oui, vous connaissez les films, oui, mais est-ce que vous connaissez vraiment de quoi ça parle? Non, pas forcément. Donc voilà, j'ai décidé de vous éclairer ce sujet. Un monstre marin, une chose énorme, ayant été signalé par plusieurs navires à travers le monde. Une expédition est organisée sur l'Abraham Lincoln, frégate américaine, pour purger les mers de ce monstre inquiétant. À bord se trouve le français Pierre Aronnax, professeur au Muséum de Paris, et Conseil, son fidèle domestique. Une fois parvenu en vue du monstre, deux immenses trombes d'eau s'abattent sur le pont de la frégate, précipitant Aronnax, Conseil et le harponneur canadien Ned Land sur le dos du monstre, qui se révèle être un fabuleux sous-marin, le Nautilus, conçu et commandé par un étrange personnage, le capitaine Nemo, qui paraît farouchement hostile à toute l'humanité. Condamnés à ne plus jamais revoir leur patrie, leurs parents, leurs amis, la plus extraordinaire aventure commence pourtant pour les trois hommes. Pour finir sur cette œuvre, je vais vous donner mon propre avis sur ce livre. Cela fait bien 2 ans que je l'ai lu. L'univers un peu fantastique de l'auteur m'intéressait. J'ai donc choisi de commencer la série de romans avec ce roman, sachant qu'en plus, ceux qui sont en première et qui doivent lire des livres obligatoirement savent de quoi je parle. Ma première surprise a été de tomber sur des chapitres où ça ne parlait quasiment que mathématiques. Oui, des chapitres ne parlant que de maths. Dedans, ça ne parlait que de la dimension du navire, de la proue à la queue. Oui, littéralement. Donc je ne comprenais pas beaucoup ces chapitres où ça n'y avait que des chiffres. Ce n'est pas le genre de choses que l'on voit aujourd'hui. On sent donc dès le début que ce roman est écrit à une autre époque. Et ce côté-là m'a encore plus donné envie de continuer ce livre. On voit le soin apporté aux personnages, comme le capitaine Nemo, qui est un homme insaisissable, quoi qu'on en dise. D'ailleurs, son nom a été donné au célèbre poisson du monde de Nemo. Car effectivement, si vous ne le savez pas, le réalisateur sur ce film aimait beaucoup ce livre. Il aimait beaucoup « 20 milliers sous les mers » et le personnage de Nemo l'a tellement marqué qu'il a décidé de donner son nom au poisson. Je lis l'anecdote, n'empêche. Enfin bref, les personnages sont tous super différents. On s'attache à eux et quand on se met à leur place, on se croirait presque à bord du Nautilus. C'est un livre qui nous plonge dans la découverte, le voyage et la connaissance. Je le recommande à ceux qui aiment être transportés par leur lecture. En plus, encore une autre anecdote. Waouh ! Eh bien, si vous ne le savez pas, il existe des grottes dans le sud de la France. Je ne me souviens plus de l'emplacement exact. Et dans ces grottes, il y a des stalagmites et des stalactites immenses. Et en fait, pour vous faire découvrir ces grottes, on utilise justement les romans de Jules Verne. Donc, plutôt Voyage au centre de la Terre, forcément, pour les grottes. Mais voilà, on vous plonge dans cet univers. Donc si vous avez déjà lu les livres, ça va encore plus vous toucher d'une certaine manière. La matinale est donc terminée pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons le 28 mars. Donc merci à toi Stéphane.
Merci à toi Manon.
Et nous pouvons maintenant clore la matinale.
Oui, on vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine et on se retrouve donc le 28 mars. C'était Quoi de neuf au CDI sur Radio Prévert 105.9.
Good morning. Good morning.
Good morning.
Whoa. Good morning.
And
good morning, Radio Prevent.